Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans Accent. Nous vous invitons à réécouter nos meilleurs reportages. Direction l'Irlande, l'ex-tigre économique qui a subi la crise de plein fouet. Les Irlandais qui se sont vus expropriés en masse. Dépaysement et retour aux sources, devenez berger en Finlande cet été. Mais d'abord, cette question existentielle et essentielle. Les députés britanniques sont-ils des fans un peu trop empressés ? Et oui, on se croirait au Père Lachaise à Paris quand les groupies de Jim Morrison, le chanteur décédé des Doors, se pressaient autour du buste de leur idole. Les MPs britanniques semblent faire la même chose dans leur vénérable parlement de Westminster. Avant de rentrer dans la Chambre des communes, nombre de parlementaires n'hésitent pas à toucher les pieds d'une de leurs statues postées à l'entrée, celle de Margaret Thatcher ou celle de Winston Churchill en particulier. Sauf qu'à force, les statues s'effritent, Marie Billon.
Arrêtez de tripoter Margaret et Winston. C'est la consigne que la Chambre des communes a émise. Et pour que ce soit bien clair, chaque statue a désormais son petit panneau implorant les parlementaires en mal de gris-gris de ne pas s'adonner à l'antique caresse du porte-bonheur géant Do Not Touch. Ça casse un peu la déco chic et antique du lieu. Il faut dire que les statues se trouvent juste à l'entrée de la salle des communes et c'est en entrant dans l'arène pour débattre que les parlementaires ont les mains baladeuses et superstitieuses. En fait, les statues de Margaret Thatcher et Winston Churchill ne sont pas les seules victimes de ce petit rituel. Ce sont elles les plus en danger parce que les deux premiers ministres appartenaient au Parti conservateur et la majorité actuelle est conservatrice. Elles sont donc en ce moment victimes de leur succès. Mais chaque parti a sa statue fétiche. Les travaillistes effleurent les petons de Clément Attlee, tandis que les libéraux-démocrates chatouillent les doigts de pied de David Lloyd George. La superstition est une institution. Le rituel, malgré tout, a assez duré, des dizaines d'années avec des conséquences peut-être irréversibles. La statue de Winston Churchill, la plus populaire, aurait déjà des petits trous, les autres seraient un peu trop polis. Alors, en plus des panneaux Do Not Touch, les statues pourraient bien être entourées d'une barrière protectrice afin de les mettre définitivement hors de portée des caresses des députés. Les mentalités aussi doivent changer à Westminster. Il a déjà été conseillé aux parlementaires de ne plus parler de ce rituel aux petits nouveaux pour que la tradition meure avec les anciens.
Parce que la crise irlandaise était provoquée par les banques et la flambée de l'immobilier, l'après-crise est particulièrement douloureuse pour tous ceux qui ont investi dans la pierre. Un quart des Irlandais qui ont un prêt immobilier ont du mal à payer les traites. Et la crainte de voir leur maison saisie par la justice et donc par les banques est lourde à supporter. Les ventes aux enchères sont désormais devenues un point de ralliement pour tous ceux qui dénoncent un système qui risque de les mettre à la rue. Reportage Frédéric Lebel.
Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you!
Les commissaires priseurs ont pris les grands moyens, barrières et policiers devant la Royal Dublin Society pour empêcher les manifestants d'entrer. Il faut dire que la dernière vente aux enchères a dû être annulée à cause des protestations contre les expropriations et la vente de biens immobiliers. À l'intérieur, autre ambiance, feutrée cette fois. Devant une clientèle très internationale, on règle les derniers micros. Claude vient régulièrement du Luxembourg pour investir. Selon lui, la pierre irlandaise est bradée.
Bon, là, on a vu des locaux de commerce ici à Dublin. Bon, on ne peut plus les construire pour la même valeur. Hein. Je veux dire, on achète en dessous de la valeur de construction.
Et c'est vraiment très intéressant, le marché irlandais maintenant ?
Moi, je trouve, oui, c'est, à mon avis, un des marchés les plus intéressants en Europe, parce que je crois bien dans l'économie irlandaise qu'elle va se reprendre. J'ai toute confiance. C'est un peu différent comme la France, si j'ose le dire. Là, on augmente les taxes, ici, on essaye de les descendre. Ça m'arrange bien, je veux dire. C'est le bon esprit pour combattre une crise. Et les rendements locatifs sont très intéressants, même sur les objets résidentiels et commerciaux.
Et quand vous dites que ce sont des bons rendements, c'est des rendements de combien alors ?
Bah, ça dépend. On peut avoir dans des très bons quartiers 6-7% de rendement, vraiment très branchés. Dans d'autres quartiers 10 et dans les quartiers un peu plus populaires, disons, peut avoir entre 20 et 25% de rendement locatif. Et là, il y a des valeurs à faire.
Ali est aussi un habitué, et pourtant il est toujours sidéré par les prix affichés.
Il y a pas mal de bonnes affaires dans le catalogue. Il y a un terrain là qui devrait se vendre autour de 100 000 euros, et même à ce prix-là, ça serait encore pas cher. Et puis, il y a autre chose. Attendez, je vais vous le retrouver. Oui, c'est ça, une maison à Strafan. Il y a un prix de réserve de 800 000 euros, mais pour une maison comme ça, c'est rien. Franchement, c'est pas cher. En 2006, vous auriez payé 3 millions d'euros pour une maison comme ça. Mais bon, si ça se trouve, l'enchère ne montera peut-être pas jusqu'à 800 000 euros.
Tout ce beau monde est un peu sur la défensive, un peu mal à l'aise. Il faut dire que dès l'entrée, ils ont été pris à partie. Car c'est une autre Irlande qui crie à l'extérieur, brandit des pancartes et les insulte, des particuliers qui craignent de voir un jour leur maison figurer sur un catalogue de vente aux enchères, comme John Murphy, patron d'un pub dans le sud-est du pays et qui est aujourd'hui surendetté.
J'ai emprunté de l'argent à la banque ACC avant la crise, quand ça allait encore bien. Mais quand ça s'est gâté pour moi, j'ai essayé de renégocier avec eux. Mais ils se sont montrés fermés à toute solution. Ils veulent vendre mon pub. Mais si je le vends maintenant, avec la chute de l'immobilier, je ne pourrai leur rembourser qu'une petite partie de tout ce que je leur dois. Mais ils ne veulent rien entendre. Ils veulent me poursuivre jusqu'au dernier penny. Ça veut dire me jeter à la rue, expulser ma famille de chez moi et prendre tout ce qui me reste.
La vente va prendre du retard. Robert Toban, le directeur et commissaire priseur de la maison Alsop, a monté sa société il y a 2 ans. C'est la 13e enchère qu'il organise, mais il l'assure, il ne vient pas voler les pauvres.
Nous, on ne vend pas de maisons qui ont été saisies. Ces manifestations n'ont pas de sens. Les maisons sur le catalogue sont des maisons qui appartiennent à des particuliers qui veulent vendre leurs biens ou des investissements qu'ils ont faits. Mais ce ne sont pas des saisies. Tout le monde le croit, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes les seuls commissaires priseurs dans le pays à ne pas vendre des biens saisis par la justice.
Techniquement, sa déclaration est sans doute vraie, surtout que sous la pression des dernières manifestations, il a été contraint de signer avec une association de propriétaires la promesse de ne pas vendre des biens saisis. Mais pour Marc, qui est venu crier avec un groupe de pression nationale, Dublin says no, Dublin dit non, c'est juste l'apparence des choses.
Families and children, businessmen, farmers and so on are being evicted from their homes.
They mean we won't sell a property.
Ils prétendent qu'ils ne vendent pas les maisons des gens qui sont dans la dèche. Mais je vais vous dire comment ça se passe. Les banques vont chez les gens qui ne peuvent pas payer et elles leur disent « Partez, donnez-nous vos clés, quittez votre maison. Sinon, on va raconter partout ce qui vous arrive et vous serez la honte de votre quartier, de votre communauté. » Alors les gens ont peur et ils partent. C'est aussi grave que d'expulser les gens. C'est du harcèlement moral.
À l'intérieur du centre de conférence, protégé par plusieurs doubles portes, la vente aux enchères a finalement commencé. David Hall, qui représente l'association de défense des propriétaires, suit d'un œil détaché les transactions. C'est lui qui a fait promettre à Alsop de ne plus organiser d'enchères à la suite d'expropriations. Mais cela ne résoudra pas tout. La loi rend désormais plus facile les saisies. Il estime qu'il y en aura au moins 10 000 dans les prochains mois.
Et signe d'un marché immobilier devenu fou qui a perdu les pédales durant la grande époque du tigre celtique, l'affaire Priory Hall, du nom d'un gigantesque immeuble d'habitation au nord de Dublin, près de l'aéroport. Un immeuble construit à la va-vite, vendu à prix d'or, évacué car devenu dangereux, qui a perdu aujourd'hui toute valeur. Stéphanie Meehan, l'une des propriétaires, est devenue la figure emblématique de ce combat contre des investisseurs immobiliers véreux. Après des années de lutte, son compagnon s'est suicidé l'été dernier, la laissant seule avec ses 2 enfants. Ce drame a donc obligé le gouvernement à accepter d'effacer la dette des propriétaires et finalement de réhabiliter l'immeuble. Stéphanie Meehan raconte son histoire à Frédéric Lebel.
On a emménagé en 2008 et en juin de la même année, on a eu des pluies torrentielles pendant plusieurs semaines. Et c'est là qu'on a pu voir tous les défauts de construction de l'appartement. Il y avait des fuites venant du toit. Le balcon était en pente. Du coup, l'eau coulait dans l'appartement. C'était d'ailleurs le même souci pour les 3 balcons. Et puis il y avait ce problème de normes incendie.
Ça, on ne l'a appris qu'en 2009, lorsque la mairie de Dublin a estimé que c'était trop dangereux et qu'elle a évacué ses locataires. Il y avait ce problème des normes incendies, mais aussi le toit construit de manière illégale. Il y avait tellement de problèmes. On a reçu un résumé en 18 pages, on va dire une sorte de manuel de tous les problèmes de cet immeuble, les portes, les escaliers, rien n'allait. Le manuel aurait pu s'intituler « Toutes les erreurs à ne pas faire quand on construit un immeuble ». Aujourd'hui, mon appartement ne vaut plus rien. Et vous êtes très en colère de voir à quel point cet immeuble a détruit votre famille ? Je suis tellement en colère, je n'ai jamais été aussi en colère de toute ma vie. Ça a détruit ma vie, mais aussi la vie de tous les autres résidents de l'immeuble. Pendant 2 ans après l'évacuation, auquel il faut ajouter 2 autres années, on s'est battu simplement pour avoir une maison en bon état dans laquelle on peut vivre en sécurité. Et ça, on ne l'a toujours pas. C'est dur, j'ai perdu mon compagnon à cause de tout ça. Et j'ai le sentiment que si on avait trouvé une solution il y a 2 ans, il serait toujours là aujourd'hui.
Stéphanie Miham, l'une des propriétaires flouées de Prior Hall, elle était interrogée par Frédéric Lebel. Très loin de la crise et de ses préoccupations, la Norvège, qui a bâti sa richesse sur 2 considérables revenus pétroliers dans le royaume scandinave, les salaires y sont maintenant tellement élevés que les Norvégiens réclament carrément une baisse du temps de travail. Grégory Tervel.
En 60 ans, la Norvège s'est métamorphosée grâce à la découverte et à l'excellente gestion de ses ressources pétrolières et gazières. Parmi les pays les plus pauvres d'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, elle est aujourd'hui l'un des plus riches, si ce n'est le plus riche du continent. Les salaires continuent d'augmenter à leur niveau habituel, plus 4% par an. La crise de ces dernières années n'a quasiment pas concerné le pays. Il n'y a pas de salaire minimum en Norvège, mais très rares sont les secteurs d'activité où l'on gagne moins de 19 euros de l'heure. L'écart entre les hauts et les bas salaires est bien plus resserré que dans les pays plus au sud de l'Europe. La plupart des émoluments des Norvégiens se situent aux alentours du salaire moyen, plus de 5000 euros bruts par mois. Conséquence de leur pouvoir d'achat très enviable, les Norvégiens sont de plus en plus nombreux à réduire délibérément leur temps de travail, considérant qu'ils gagnent suffisamment d'argent, même en travaillant moins. À la sortie d'Oslo, les bouchons des départs en week-end sont maintenant presque aussi importants le jeudi après-midi que le vendredi après-midi. Ce temps partiel choisi provoque des inquiétudes sur la compétitivité future de la Norvège. L'économie norvégienne a besoin de main-d'œuvre qualifiée et dépend déjà très largement des travailleurs étrangers dans le bâtiment, la santé ou les travaux agricoles saisonniers. L'immigration de travail semble être la seule solution de la Norvège pour compenser le manque de main-d'œuvre dans ces secteurs, car l'âge de départ à la retraite, fixé à 67 ans, est déjà l'un des plus élevés d'Europe.
Trop d'infos angoissantes, un mode de vie stressant, alors vous avez vraiment besoin d'air pur et de solitude. Une solution toute trouvée pour vous, devenez berger. Berger, oui, en Finlande, 2 parcs nationaux proposent de garder des moutons pendant 1 semaine ou plus, entre les mois de mai et de septembre. Pauline Curtet.
400 euros par semaine, c'est le prix dont devront s'acquitter les apprentis bergers s'ils souhaitent travailler dans le parc national de Koli, à l'est du pays, ou d'Isojärvi, au centre de la Finlande. À ce tarif, ils gagnent l'accès à une petite ferme mise à leur disposition et au troupeau de moutons qui lui est attaché. Leur mission ? Changer l'eau des animaux, les compter régulièrement, les surveiller et les mener d'une prairie à l'autre. Bref, un vrai job de berger. En bonus, précise l'Office finlandais des forêts, à l'origine de l'initiative, on peut caresser les moutons autant qu'on le souhaite, il paraît qu'ils aiment ça. Le but pour les voyageurs, bien sûr, c'est de passer des vacances relaxantes au milieu de la nature, seul ou à plusieurs. Un tourisme vert qui fournit aussi une rentrée d'argent aux parcs nationaux et qui permet d'entretenir leurs prairies grâce aux moutons. Par ailleurs, les bêtes sélectionnées pour faire ce travail étant souvent des espèces rares, s'en occuper revient à participer à leur conservation.
Le rendez-vous estival avec Vincent Teval, toujours sa meilleure sélection pop.
Moom, c'est certainement l'un des groupes les plus réjouissants exportés par l'Islande ces dernières années. C'est un collectif qui s'est formé à la fin des années 90 à Reykjavik. Au gré d'incessantes allées et venues d'une demi-douzaine de multi-instrumentistes inventifs, Moom a publié beaucoup de 45 tours et des albums où se mélangent musique électronique, orchestration plus traditionnelle, percussions et voix gracieuses. Les proportions de la recette varient selon les albums et le sixième, l'excellent Smile Wand, est lui davantage porté sur l'électronique. Il est absolument irrésistible, à l'image de la chanson Candlestick.
C'est la fin d'Accent d'Europe, à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes, les infos.